Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette Assemblée générale de Verallia. Il s'agit pour nous d'un temps fort de l'année et d'une occasion privilégiée de vous informer sur les résultats, les faits marquants récents ou encore la gouvernance du groupe. Nous vous remercions pour votre présence et votre souhait de prendre part activement aux décisions importantes du groupe. Cette Assemblée générale fait également l'objet d'une retransmission audio en direct via un lien qui a été diffusé préalablement dans l'avis de convocation. Vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour de cette Assemblée dans les documents qui ont été portés à votre connaissance et notamment dans la brochure de convocation. Les deux actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote de Verallia à la date de la convocation ont accepté de remplir le rôle de scrutateur et nous les en remercions. Il s'agit des sociétés Caon 5, représentées par M. Jean-Benoît Demaré, et BPI France Participation, représentées par M. Sébastien Moineau. Sont également présents à mes côtés M. Patrice Lucas, directeur général du groupe, Madame Nathalie Delbreuve, directrice financière du groupe, Madame Wendy Coulfoulon, directrice RSE et juridique du groupe. Madame Cécile Tandeau de Marsac, présidente du comité des nominations et du comité des rémunérations. Et PricewaterhouseCoopers et BMA, tous deux co-commissaires aux comptes, représentés respectivement par Messieurs Nicolas Brunetot et Éric Sévos. Je vous propose de désigner Madame Wendy Coulfoulon, directrice RSE et juridique du groupe et secrétaire du conseil d'administration, comme secrétaire de cette Assemblée générale. Wendy Coulfoulon va vous rappeler quelques informations légales liées à cette Assemblée générale.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous réinforme que les règles légales en matière de convocation de l'Assemblée générale ont été respectées et que les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements devant être communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition au siège social ainsi que le site internet de Verallia. Le quorum requis pour l'Assemblée générale ordinaire est d'un cinquième des actions ayant droit de vote. Le quorum requis pour l'Assemblée générale extraordinaire est d'un quart des actions ayant droit de vote. 848 actionnaires ont donné pouvoir au président et 1339 ont d'ores et déjà voté par correspondance, soit un total de 83 visés. 0,04 des actionnaires. Le quorum, après l'accueil des actionnaires présents physiquement à la présente assemblée, s'élève à 83,045%. La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance représentent d'ores et déjà plus du quart des actions ayant le droit de vote.
Merci Wendy. L'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Je déclare donc la séance ouverte. Patrice Lucas, directeur général, va maintenant vous présenter le groupe ainsi que les faits marquants pour 2023.
Mesdames et messieurs, bonjour. Comme toujours, c'est un privilège et un honneur pour moi d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous. Et je vous propose donc de démarrer sans plus attendre. Donc, tout d'abord, quelques éléments sur la présentation du groupe. Verallia, c'est un leader mondial de l'emballage en verre. Nous sommes numéro un en Europe, numéro deux en Amérique latine et numéro trois au niveau mondial. Un des points forts que nous considérons comme un avantage compétitif, c'est notre diversification de marché et de segments. Vous avez ici, sur ce graphe, la mise à jour de cette répartition avec nos chiffres 2023. Donc, vous voyez que les vins tranquilles représentent 31%, les vins pétillants 12%, les spiritueux 16%, la bière 12%, les boissons non alcoolisées 11% et les produits alimentaires 17%. Une de nos forces, au-delà de ces segmentations, c'est notre base client, plus de 10 000 clients, ce qui nous assure une indépendance, ce qui nous assure une couverture et un service client extrêmement fort. Nous opérons dans 12 pays, avec 34 usines verrières, 63 fours, 5 usines de décor, 19 centres de traitement de calcin, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Et tout cela avec près de 11 000 employés. Nous produisons plus de 16 milliards de bouteilles et de pots par an. Ici, notre actionnariat, mis à jour à fin mars 2024. Donc, tout d'abord, BWSA avec un peu plus de 28%. Ensuite, BPI France Participation avec 7,6%. Ensuite, l'actionnariat salarié qui représente près de 4%. Et enfin, une partie autodétenue à hauteur de 3%, ce qui nous fait un flottant avec un peu plus de 56%. Comme vous le savez, nous avons inscrit dans notre ADN le partage de la valeur et l'association de nos employés à l'actionnaire, à la bonne marche de l'entreprise. Et c'est pour ce faire que nous avons mis en place un programme d'actionnariat salarié. Et nous allons avancer vers la 9e émission, programme d'actionnariat salarié qui sera proposé du 2 au 17 mai pour 0,5% du capital. Et ici, nous avons pour objectif d'atteindre autour de 5% des actions détenues par les employés. Donc 9 pays sont éligibles, ce qui va représenter à peu près 82% des salariés. Nous proposons une décote de 15%. Et une contribution, un abondement de l'employeur de Verallia progressif jusqu'à hauteur de 2000 euros. Verallia, ce sont des positions de leader dans toutes les régions. Nous sommes numéro un en Europe du Sud et de l'Ouest. Le chiffre, ça représente à peu près 65% de notre chiffre d'affaires. Donc ça couvre la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Nos actifs dans cette région, c'est 20 sites, 35 fours, 14 centres de traitement de calcin. On a vu une hausse des ventes sur ces géographies en 2023, en particulier grâce à la hausse des prix. Et nous avons un dynamisme particulier sur le champagne et le prosecco, et avec une performance qui a été extrêmement résiliente en 2023. Deuxième région, l'Europe du Nord et de l'Est, qui couvre l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine, et nouvellement entrée dans la famille, l'Angleterre, avec l'acquisition d'Ala Glass en novembre 2022, que nous avons renommé bien sûr Verallia UK depuis le 1er janvier 2023. Et donc cette région, c'est 9 sites de production verriers, 21 fours, 3 centres de traitement de calcin. Puis l'Amérique latine, Brésil, Argentine, Chili, ça pèse 10% de notre chiffre d'affaires en 2023. 5 sites de production verriers, avec en particulier l'ouverture d'un nouveau four sur l'usine de Jacutinga en 2023, ce qui nous met à 7 fours et 2 centres de traitement de calcin. Verallia, c'est une performance financière démontrée tous les ans de 2018 à 2023. Et ça commence par une croissance. Et vous avez ici un taux de croissance annuel moyen sur de 18 à 23 de plus 10%, qui s'appuie en premier lieu sur un marché du verre en croissance. J'aurai l'occasion d'y revenir. Sur le fait que, grâce à nos positions géographiques, en tant que leader, nous avons la possibilité de prendre part à cette forte croissance. Et puis, bien sûr, le pricing power. Nous ne vendons pas que des tonnes de verre, nous vendons un service, nous vendons une forte qualité, nous vendons notre capacité à proposer des solutions innovantes à nos clients, ce qui nous permet de pricer, et donc cette croissance de 10%. Cette croissance de 10%, elle se transforme en profitabilité. Et vous voyez que sur la période 18-23, notre taux de croissance annuel moyen est de 15,3%. Premièrement, grâce à notre levier opérationnel, chaque tonne supplémentaire vendue contribuant à un très bon niveau. C'est la maîtrise de l'écart prix-coût, positif. Et c'est notre plan d'action de performance, productivité, notre plan d'action de performance, que nous appelons le PAP, qui est déployé dans chacune de nos usines avec rigueur pour identifier toute opportunité d'améliorer nos opérations industrielles, avec, comme vous le savez, un objectif minimum annuel de 2% par an. Et cette profitabilité, pour objectif d'être transformée en cash, et là aussi, vous avez, entre 2018 et 2023, notre taux de croissance annuel moyen de plus 16,7%, donc qui s'appuie sur la profitabilité de l'entreprise, mais aussi sur notre maîtrise des investissements, avec le souci que chaque euro investi soit contributeur de création de valeur. Ici, nous partageons avec vous un point de situation à fin 2023 par rapport aux objectifs financiers qui avaient été présentés lors de la journée investisseur en octobre 2021. Nous avions 5 objectifs financiers. Le premier, la croissance organique de nos ventes, où l'objectif était de plus 4 à plus 6% de taux de croissance annuel moyen, avec moitié par les volumes, moitié par les prix. Évidemment, quand ces objectifs ont été définis en 2021, le contexte n'était pas le même. Nous sommes rentrés dans une période d'inflation et vous voyez qu'à fin 2023, le taux de croissance annuel moyen, il est de plus 26%. Donc à fin 2023, cet objectif est atteint. Sur la marge d'EBITDA ajustée, notre objectif pour 2024, 28 à 30%. Nous avons clos l'année 2023 avec un EBITDA ajusté d'1,108 milliard d'euros, une marge d'EBITDA à 28,4. Donc nous sommes aussi dans la fourchette qui avait été annoncée pour 2024. Sur le free cash flow cumulé, l'objectif, générer 900 millions d'euros sur le cumul des trois années, 22, 23, 24. À fin 2023, après deux années, nous sommes à 729 millions d'euros. Donc en route pour atteindre cet objectif en 2024. Le résultat par action excluant le PPA, objectif pour 2024, 3 euros par action. Fin 2023, 4,4 euros. Donc là aussi, nous sommes à l'objectif. Et enfin, la politique de retour aux actionnaires. Nous avions pris un engagement de croissance des dividendes de 10% par an. Par action de 10% par an, plus un rachat d'actions relutif. Donc le dividende qui va être soumis au vote de l'Assemblée ce jour, sur proposition du Conseil d'administration, propose 43%. Nous avons fait des rachats d'actions à hauteur de 50 millions d'euros entre 2022 et 2023. Et notre levier d'endettement est à 1,2 et on aura l'occasion d'y revenir. Donc, en gros, par rapport aux engagements qui avaient été pris lors de cette journée investisseur en octobre 2021, on voit qu'on est en train de... On est ouvert sur l'ensemble des objectifs. Sur le cash, évidemment, il nous reste un peu de chemin à faire, mais on a fait une bonne partie du chemin en deux ans. Et nous sommes bien évidemment extrêmement confiants sur le fait que l'objectif sera atteint fin 2024. Nous sommes Verallia. C'est une, je vais le dire en anglais, j'ai du mal à le dire en français, une catchphrase. C'est notre ADN. Nous sommes Verallia, ça s'appuie sur des fondamentaux extrêmement forts. Ça commence par notre raison d'être. Réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Ça s'appuie sur nos valeurs qui nous guident au quotidien. Et ça commence par l'attention portée aux clients. Le respect des personnes, des lois et de l'environnement, la responsabilisation et le sens du résultat, et bien évidemment le travail en équipe. Donc deux fondamentaux qui guident nos actions au quotidien. Ce sont aussi quatre lignes d'action que nous déployons pour la mise en œuvre de notre stratégie. Poursuivre une croissance disciplinée, accroître l'excellence opérationnelle, élément fondamental, nous sommes une entreprise industrielle. Sans performance industrielle, il ne peut pas y avoir de performance de l'entreprise. C'est investir de façon avisée pour un avenir durable. Donc là, c'est encore une fois le souci que chaque euro investi et création de valeur, avec un focus particulier sur des investissements stratégiques qui vont contribuer à la croissance organique du groupe, mais aussi qui vont contribuer à la mise en œuvre de notre feuille de route de décarbonation pour atteindre notre objectif de réduction des émissions de CO2. Et c'est en créer une forte culture entrepreneuriale et inclusive. Nous voulons que chacun, avec sa propre ambition, soit contributeur de la performance de l'entreprise et soit responsable de ses actions. Et enfin, nous avons complété ce dispositif il y a quelques semaines avec notre marque employeur, avec la volonté d'avoir un écho fort sur les ressources humaines au sens large, qui est pour ma part un des défis importants que toutes les entreprises vont devoir faire face dans les 10, 20 ou 30 ans à venir. Et c'est pour ça que nous avons voulu renforcer cette marque employeur avec une accroche. Notre passion, le vert, notre inspiration, c'est vous. Et cette marque employeur, elle s'appuie sur 4 éléments. Nous fabriquons un matériau unique et nous devons le faire savoir. Nous devons le mettre en valeur. Nous valorisons nos équipes et leur permettons de révéler leur potentiel. Nous nous engageons à réimaginer le vert pour un avenir durable. Ben dis non, ça fait écho à notre raison d'être. Et nous partageons une vision globale tout en restant ancrés localement. Je vous propose de partager le film qui lance cette marque employeur. Voilà pour la présentation du groupe. Je vous propose de passer à la seconde partie et de partager avec vous les éléments clés, quelques éléments clés de l'année 2023. Et tout d'abord, le marché. Car 2023 a été, pour être totalement transparent, une surprise, avec un marché en forte baisse. Vous voyez ici qu'en 2023, on aura dans quelques semaines les chiffres définitifs de la Fédération européenne du verre. À date, nous avons uniquement les chiffres du premier semestre. Avec le premier semestre 2023, moins 9,5% par rapport à 2022. Et on sait que le second semestre est pire. Ce qui fait qu'on peut estimer que sur l'année, on est certainement autour de moins 12%. Donc, une baisse inattendue, qui est finalement le résultat d'une réduction de la consommation. Après 2 années de forte inflation, le pouvoir d'achat des consommateurs a forcément été impacté et donc des arbitrages ont eu lieu et la consommation a été en baisse. Mais la consommation, on sait qu'elle n'a pas été en baisse de plus de 10%. Donc, pour le verre, il y a un phénomène complémentaire, c'est un phénomène de stockage qui a pris naissance en 2021 et en 2022. Et bien évidemment, quand la consommation baisse, un peu comme si vous vous retrouvez sur une autoroute et que d'un seul coup, tout le monde commence à freiner, ça crée un bouchon. Donc, il y a un phénomène de stockage et donc de déstockage auquel nous assistons depuis depuis l'été dernier. Si vous regardez l'historique du marché, on était sur une croissance de 2% par an, croissance normale, 2% par an. 2020, le Covid, le marché a été extrêmement résilient, puisque le marché du verre n'a baissé que de moins 1,5% sur l'ensemble de l'année, malgré la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, malgré l'ensemble des actions de confinement décidées par les États. Et puis 2021, post-Covid, fort rebond. Et puis 2022, fort rebond de nouveau, en particulier avec le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la peur de manque d'énergie, la peur de manquer de verre, et donc des réactions de nos clients à créer ce stock. Et donc on rentre en 2023 avec du stock, de produits finis essentiellement, une baisse, et donc on constate cette variation en 2023. Nous voyons 2024 comme une année de normalisation. Nous voyons 2024 comme une année de normalisation, parce que la bonne nouvelle, c'est que le déstockage, c'est physique, et ça a une fin. Nous estimons que la fin de ce déstockage, fonction des géographies, fonction des segments, prendra fin à la fin du second trimestre de cette année. Et on ne parie pas sur un rebond de la consommation, même si on peut imaginer que l'inflation ralentissant, les augmentations de salaires, qui sont en général décalées par rapport à l'inflation, vont redonner du pouvoir d'achat aux clients. On retrouvera, à partir de 2025 et au-delà, une croissance moyenne de 2% par an. Nous restons extrêmement confiants sur les fondamentaux de notre marché. En conséquence, face à cette réalité, bien évidemment, nous avons adapté nos plans de capacitaires additionnels. On va démarrer, on a lancé deux fours qui sont quasiment terminés, sur le point de se terminer. Donc un premier à Campombom, au Brésil. Il était prévu qu'il démarre plus tôt cette année. On a décidé de décaler le démarrage. Donc ça démarrera sur la seconde partie de l'année, à la fin du troisième trimestre. Et en Italie, on a décidé de décaler un peu plus. Ça se démarrera au T2 2025. Donc ces deux capacitaires supplémentaires sont confirmés, mais on les décale dans le temps pour s'adapter à cette normalisation et à cet effet du marché 2023. Ces deux fours sont deux technologies dites oxy-combustion qui vont nous permettre de faire un premier pas significatif en matière de réduction de CO2, puisque par rapport à un four traditionnel, ça va nous permettre de réduire de 18% nos émissions de CO2. Et puis si vous vous souvenez, nous avions annoncé fin 2022, d'autres capacitaires. Nous avions annoncé fin 2022 un nouveau four en Espagne pour 2022, précisément à l'usine de Montblanc, et nous avions annoncé un nouveau four en Italie en 2026. Bien évidemment, dans le souci de s'adapter aux conditions du marché, nous avons décidé de décaler ces investissements. Et à l'heure où on se parle, nous ne voyons pas le besoin pour ce four en Espagne, donc qui était prévu en 2025, avant 2027. Et en Italie, nous verrons. Donc nous continuons de travailler sur l'étude de ces fours, mais nous n'avons pas lancé les CAPEX. Donc nous appuierons le bouton des CAPEX avec la certitude que nous aurons besoin de ces fours pour servir nos clients. Nous continuons d'avancer sur notre feuille de route RSE. La bonne nouvelle, et ce qui est réellement, j'allais dire un plaisir, mais c'est au-delà du plaisir, une reconnaissance de nos actions, c'est les notations que nous obtenons avec des instituts extrêmement sérieux. CDP. Donc nous avons maintenu en 2023 notre note A dans la catégorie changement climatique. Sachant que chaque année, la barre s'élève. Donc maintenir cette performance, cette évaluation de A-, c'est une belle performance. Pour la première fois, nous avons participé à la catégorie sécurité de l'eau. Vous savez que l'eau est un vrai sujet. Ça le devient de plus en plus. Et donc nous avons la volonté d'avancer sur cette affaire, et en particulier sur notre réduction de consommation d'eau. Et donc là, pour une première notation, nous avons obtenu un B. EcoVadis, pour la troisième fois consécutive, nous obtenons la médaille platinum, la médaille de platine, ce qui nous classe dans le premier pourcent de 90 000 entreprises les plus vertueuses sur notre responsabilité sociale et environnementale. Et notre score en 2023 a été de 85% à comparer à un 78% en 2022. MSCI, donc, qui est un organisme aussi sérieux qui évalue la politique RSE, les actions RSE des entreprises, vous voyez qu'en 2023, notre note a été relevée à A. Et ce qui est remarquable, c'est que année après année, nous progressons. Donc tout ça, pour moi, est fondamental, puisque c'est aligné avec notre raison d'être. Et c'est encore une fois la claire démonstration que nos plans d'action sont sérieux et que nous allons contribuer à la protection de la planète, bien sûr, mais que c'est aussi un élément qui nous prépare pour l'avenir et qui sera un avantage compétitif. Nous voulons être le leader, en particulier, de la décarbonation dans notre industrie. Donc, nos émissions de CO2, elles continuent de baisser. En 2023, nous avons baissé, ce qui fait qu'en cumul, nous sommes à moins 15,8% par rapport à 2019. Donc, aligné avec notre objectif 2030, qui est de moins 46%. Vous voyez qu'en 2023, nous poursuivons bien évidemment tous nos programmes de réduction de la consommation énergétique. La meilleure réduction de CO2, c'est l'énergie que nous ne consommons pas. Donc tout ce qu'on peut faire en matière de réduction de consommation énergétique, ça réduit nos émissions de CO2 et ça nous apporte de la compétitivité. Donc bien évidemment, c'est la meilleure des actions que nous pouvons mener. Ensuite, vous pouvez voir l'évolution de la part de l'électricité bas carbone et renouvelable entre 2019 et 2023. Nous sommes passés de 23% à 59%. Et nous avons l'ambition de passer à 100%. Autre point important, c'est la maîtrise du calcin. Vous savez que le calcin, c'est une ressource importante. Le verre a un avantage incroyable, c'est qu'il se recycle. Et contrairement à beaucoup d'autres industries, avec le verre, nous pouvons fermer la boucle. Close the loop, in English. Fermer la boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je produis une bouteille de verre, le consommateur la redépose dans un bac, nous récupérons cette bouteille et nous la réintroduisons dans nos fours. C'est fondamental. Certains fours tournent à 90% de calcin. Donc, nous avons continué nos actions pour pousser cette recyclabilité. En Amérique latine, où le système est beaucoup moins mature qu'en Europe, nous participons directement à la collecte. Nous investissons dans la collecte. Et en Amérique latine, nous avons augmenté les bennes qui sont installées, que nous avons installées au Brésil, au Chili, au plus près de nos usines, pour récupérer un maximum de calcin. En France et en Allemagne, nous avons investi 15 millions d'euros pour moderniser nos centres de traitement et les rendre plus efficients quant à l'extraction du calcin, au traitement et à l'extraction du calcin que nous pouvons utiliser dans nos fours. Et en Espagne et au Portugal, nous avons fait l'acquisition de 6 installations de traitement de calcin et mis en place une joint venture. L'objectif pour nous, à travers ces investissements, c'est de maîtriser le sourcing, c'est de maîtriser la qualité. Et aujourd'hui, nous sommes sur un 50-50. 50% en interne, 50% en achat. En 2023, En Amérique latine, nous avons augmenté notre calcin, l'utilisation de calcin externe à 36%. Nous l'avons porté à 36%, à comparer à 32% en 2022. Et en Europe de l'Ouest, nous avons clos l'année à un peu plus de 60%, contre 62% en 2022. Donc en Europe de l'Ouest, nous avons baissé, si je me compare à 2022. C'est lié premièrement à une difficulté de sourcing. Et là, on a peut-être manqué un peu d'anticipation, mais nous avons récupéré le tir. Mais nous nous positionnons très bien pour 2024. Et puis, quelques sujets de disponibilité, en particulier en Italie, avec une spéculation dans laquelle nous n'avons pas voulu rentrer. En 2024, je l'ai annoncé lors de la publication des résultats du groupe, c'est l'année de l'innovation. Vous savez que nous avons deux briques technologiques importantes qui vont contribuer à la réduction de nos émissions de CO2. Une première technologie dite électrique, dite 100% électrique, et une seconde technologie dite hybride, où au lieu de consommer 80% de gaz, nous consommerons 80% d'électricité. En 2024, c'est le moment où vont devenir réalité les deux pilotes que nous avons lancés. Premièrement, le four électrique de Cognac. Nous sommes en production. L'allumage du four a eu lieu le 18 mars. Nous sommes dans la phase d'apprentissage. Nous sommes dans la phase de montée en cadence et les premières bouteilles seront livrées avant la fin du second trimestre. On rappelle que c'est une première mondiale pour l'industrie du verre dédiée aux boissons. C'est un four de 180 tonnes par jour. Et donc, nous allons devoir apprendre à opérer avec cette configuration d'énergie. Et bien sûr, apprendre. Et suite à ce pilote, nous pourrons rentrer dans une phase de déploiement sur les 10-15 années qui viennent. Et tout cela contribuera, encore une fois, à la réduction de nos émissions de CO2. Et puis la seconde technologie, le four hybride. Notre premier four hybride démarrera en production fin 2024, début 2025, à Saragosse, en Espagne. Et puis nous aurons un second four en hybride à Saint-Romain-le-Puy en 2026. Nous considérons cela comme un avantage compétitif. Nos clients sont demandeurs. Vous savez que nous représentons une forte part du scope 3 de nos clients. La majorité de nos grands clients sont engagés, bien évidemment aussi, sur une réduction de leur émission de CO2. Certains ont même publié et pris un engagement de carbone neutral à partir de 2040. Donc ils ont besoin de notre savoir-faire. Ils ont besoin que nous investissions. Ils ont besoin de produits bas carbone, forte qualité. Donc nous sommes en route pour les accompagner et encore une fois, bien placés pour prendre des positions auprès de nos clients. Verallia, c'est aussi de la créativité, du design, une capacité à proposer des solutions à nos clients pour sublimer leurs produits. Et vous avez ici quatre exemples de produits qui ont été lancés en 2023. Il y en a bien d'autres. Hein. Mais par exemple, donc vous voyez en France cette bouteille avec Martel. Donc imaginez, produite à Cognac, qui se distingue par un fond facetté et son bouchon remarquable, incarnant le luxe et la sophistication. L'exemple de l'Espagne, Marqués de Vijora. Cette bouteille allie une fine élégance à une étiquette en forme de feuille morte, un bouchon de liège traditionnel, incarnant ainsi la sophistication et l'essence régionale du vin. L'Italie, Amarone Aldeguerri, la forme bourguignonne matérialise l'essence de ce prestigieux vin italien. Elle reflète les saveurs intenses de ce vin et le savoir-faire artisanal faisant de cette bouteille un choix exquis pour les amateurs de vin avertis. Royaume-Uni, Exemple avec Sip Smith, une bouteille de gin produite en verre transparent dans notre usine de Leeds, avec son design moderne et son étiquetage accrocheur, reflète l'enthousiasme et l'innovation à l'origine de la hausse de la consommation de gin dans le monde entier. Et enfin, en Argentine, avec Trivento, une bouteille séduite par son design sophistiqué, qui reflète le prestige du vignoble Trivento, faisant d'elle un contenant exquis pour son vin audacieux et intense. Donc vous voyez que nous sommes à la manœuvre pour proposer des produits qui répondent à des attentes de nos clients et qui, encore une fois, vont contribuer comme outil marketing et sublimer leurs produits. Fait marquant de 2023, donc en 2023, malgré un marché en réduction, nous avons continué de préparer l'avenir, vous l'avez compris, avec nos investissements sur nos technologies, sur nos fours, mais aussi avec bien d'autres éléments. Donc ici, vous avez une fresque qui, sous forme, pas vraiment une fresque, mais qui les quelques événements clés. En avril, la remise en service du second four de notre usine en Ukraine. Au mois de mai, une reconnaissance aussi de la solidité financière et RSE du groupe. Donc nous avons pris un grade dans les notations Standard & Poor's et Moody's. Je ne reviens pas sur les notations RSE. En octobre, nous avons intensifié quelques projets de réemploi du verre. Là aussi, c'est une tendance que l'on voit. Pas très fort, mais c'est une tendance sociétale qui, à un moment donné, d'un point de vue réglementaire, pourrait pousser ce type d'usage. Donc, bien évidemment, nous sommes à la manœuvre pour apprendre, pour comprendre, voir comment on pourrait contribuer. Et donc, nous prenons des initiatives sur ces sujets. En novembre, donc, l'acquisition de 5 nouveaux centres de traitement de calcin en Ibérie, qui, à l'heure où on se parle, sont totalement intégrés et en opération. C'est aussi en novembre notre première remise d'un trophée d'achat responsable à Cartonplast Iberica, avec ici la volonté non pas uniquement de contribuer sur notre propre périmètre, mais réellement d'embarquer l'ensemble de notre écosystème dans ces démarches de RSE. Et en novembre, le lancement de notre bouteille bordelaise R 300 grammes, qui est certainement la bouteille la plus légère pour une bouteille bordelaise. Et là aussi, c'est une tendance dans laquelle nous engageons, l'allègement des produits. L'allègement des produits, c'est potentiellement une réponse à l'inflation. C'est une réponse à notre rentabilité. C'est une réponse, bien sûr, à la réduction des émissions de CO2 par contenant. Et ça fait appel à un vrai savoir-faire Verallia, parce que ça demande une maîtrise de nos ingénieurs produits et process, produits pour définir les bons outillages, les bons moules pour produire cette bouteille, et process, parce que plus la bouteille est légère, plus c'est compliqué de maîtriser le process. C'est plus facile de faire des bouteilles épaisses sur des bouteilles qui sont optimisées. Ça nous demande une super maîtrise des paramètres de contrôle. Donc ça challenge l'ensemble de nos savoir-faire, mais ça les magnifie aussi. Et ça met en avant le talent de nos ingénieurs. Pour terminer, avant de laisser la parole à Nathalie qui va vous présenter en détail nos résultats 2023. Donc évidemment, 2023, c'est une excellente année, une excellente performance financière. Un chiffre d'affaires de plus de 16,5% par rapport à l'année dernière, donc 3 904 milliards de dollars, d'euros. Un EBITDA ajusté d'1 milliard 108 millions, plus 28% par rapport à 2022, une marge à 28,4%, un résultat net de 475 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 33,7% par rapport à 2022, et nous donne un bénéfice par action à 4,02, une dette on a continué d'améliorer notre levier. Notre levier est passé à 1,2 en fin d'année par rapport à 1,6. Et tout cela après une distribution de 167 millions d'euros de dividendes, de 42 millions d'euros de rachat d'actions et l'acquisition de nos centres de traitement de calcin. Nos indicateurs extra-financiers, on les a déjà commentés, moins 5,6% par rapport à 2022 en émissions de CO2, soit un cumul par rapport à 2019 de moins 15,8%. Notre calcin, je l'ai commenté, en légère baisse en 2022, avec une croissance en Amérique latine et un peu plus de difficultés en Europe. Avec les actions entreprises, nous revenons à une croissance en 2024. Et le dividende, qui est soumis au vote de l'Assemblée ce jour, où sur proposition du Conseil d'administration, nous proposons un dividende de 2,15 euros par action, soit une croissance de plus 54%. Donc encore une fois, une belle année 2023. Et vous pouvez compter sur l'ensemble des équipes pour poursuivre en 2024 et délivrer de bons résultats. Merci à vous.
Patrick, Nathalie Delbreuve, la directrice financière du groupe, va maintenant vous rendre compte des résultats financiers pour l'exercice 2023 et pour le premier trimestre de l'exercice 2024.
Merci Michel, bonjour à tous. Laissez-moi vous guider donc dans les chiffres et les résultats de cette année 2023. Donc nous commençons par le chiffre d'affaires. Donc sur cette page, vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires sur l'année. On part de 2022 tout à gauche à 3 352 millions d'euros. Et comme Patrice l'a indiqué, nous avons atteint un chiffre d'affaires en forte progression de 3 904 millions d'euros en 2023. Donc la manière dont ce tableau de passage est présenté est pour expliquer en fait la dynamique les éléments qui ont permis cette croissance. Donc la croissance organique, elle est de 21,4% en 2023. Vous voyez que la première jambe en fait est négative à moins 149,2 millions d'euros. Donc comme Patrice vous l'a présenté, l'année 2023, ça a été une année de surprise sur les volumes. On a eu surtout au deuxième semestre une baisse significative des volumes. Donc vous voyez la représentation de cet impact ici directement sur le chiffre d'affaires. Donc c'est le ralentissement à la fois de la consommation, mais surtout le déstockage important de la chaîne principalement au second semestre. Si on commente un peu plus par catégorie de produits, donc la baisse la plus forte a été enregistrée sur le segment de la bière. Donc pour rappel, hein, nous sommes très diversifiés, donc nous sommes des acteurs sur l'ensemble des segments du packaging alimentaire et de manière très équilibrée, avec une prépondérance sur le vin tranquille. Mais donc la bière a commencé à souffrir dès le deuxième trimestre l'année dernière, en 2023. Et ensuite, on a vu un peu dans une moindre mesure les vins tranquilles. Si on regarde les spiritueux, on n'a pas le même timing. En fait, les spiritueux ont bien résisté au premier semestre, mais ensuite, ils ont également suivi et subi cette baisse, donc avec un peu de retard au second semestre. Si on considère les autres segments, donc les pots alimentaires, les boissons non alcoolisées et les vins effervescents, hein, dont Patrice parlait, le champagne et le prosecco notamment en Italie, qui est très dynamique, là on a vu une meilleure résistance, en fait une meilleure résilience. Ça illustre également l'intérêt énorme, hein, d'avoir un portefeuille de segments de produits très diversifiés, parce que on voit que même dans ce contexte de baisse généralisée et de déstockage, tous les segments ne réagissent pas avec la même intensité et en même temps. Ensuite, le deuxième élément que l'on suit pour comprendre l'évolution du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle le prix mix. Donc, évidemment, il y a des effets volumes et puis après, il y a des effets prix. On était en 2023 encore dans une période d'inflation et de prix en hausse. Notamment en Europe, de manière toujours importante, avec à la fois l'effet des hausses de prix de vente qu'on avait passées en 2022 à nos clients et puis des hausses de prix passées principalement début 2023. Et tout ça, à nouveau, dans toujours l'année dernière, un contexte d'inflation de nos coûts de production. Donc vous savez que, j'y reviendrai dans l'EBITDA, on répercute en fait la hausse de nos coûts à nos clients. En Amérique latine, qui représente à peu près 10% de notre activité, on a toujours cette dynamique et je dirais que ce sont des pays qui sont toujours en inflation et assez significative. Ensuite, le mix, c'est comment la composition de notre portefeuille produit sur l'année 2023, il a contribué positivement. Et enfin, donc vous voyez les taux de change. Donc nous sommes dans des pays non euro et donc la conversion de leur chiffre d'affaires a eu un effet négatif de 369,2 millions d'euros l'année dernière. Vous avez pour finir 203,2 millions d'euros d'effet périmètre. Donc, nous avons fait en novembre 2022 l'acquisition de Light Glass en Angleterre, rajoutant ainsi au pays un pays dans notre exposition géographique. Et donc, vous nous présentons pour cette première année de consolidation Allied en effet périmètre. Regardons maintenant comment ce chiffre d'affaires s'est converti en EBITDA consolidé sur l'année 2023. Donc, même chose, on part de 866 millions d'euros tout à gauche pour l'EBITDA de 2022. Et nous avons délivré donc un EBITDA de 1,108 milliards d'euros en 2023. Vous voyez tout en haut à droite les marges que cela représente, c'est-à-dire l'EBITDA divisé par le chiffre d'affaires. Donc en 2022, 25,8% que nous avons réussi à améliorer à 28,4% en 2023. Donc présentation pareil d'un tableau de passage de l'EBITDA 22 à 23 pour comprendre la dynamique de l'année. Donc la première jambe, c'est l'activité. Donc, c'est tout simplement la conversion de la baisse des volumes dont on s'est parlé au slide précédent en EBITDA. Donc, forcément, moins de volume et ça a un impact moins d'EBITDA. Donc, impact négatif ici de moins 155,1 millions d'euros. Et vous avez également un impact négatif lié à la variation de nos stocks. En fait, nous sommes entrés dans l'année 2023 avec des stocks de produits finis qui étaient très, très bas. Cela pose problème pour servir nos clients. Donc, nous avons des niveaux optimum de stock et nous avons réajusté ces stocks, surtout sur le premier semestre de l'année 2023. Donc, c'est également dans cette activité que l'on trouve cet impact. La deuxième jambe, écart prix mix coût, donc plus 392,8 millions d'euros. Vous voyez que c'est la principale contributeur l'amélioration de l'EBITDA. Donc là, en fait, on a effectivement la manière dont on... C'est vraiment la différence entre l'inflation de nos coûts et l'inflation des prix vis-à-vis de nos clients, plus toute l'amélioration que l'on peut faire du mix produit. C'est-à-dire, plus j'ai des produits qui sont à marge importante dans mon portefeuille, ben, plus je vais améliorer également ce pilier écart prix mix coût. Le troisième, la productivité nette, c'est un pilier qui est très important pour Verallia. C'est la manière dont on arrive à optimiser nos coûts de production. Vous savez qu'on a en interne un plan d'amélioration de nos coûts de production où tous les ans, notre objectif est de baisser ces coûts de production et les coûts de production cash, c'est-à-dire je ne vais pas parler ici des amortissements et des dépréciations, de au moins 2%. Donc l'année dernière, nous avons délivré 2,1% et depuis que le groupe est coté, nous avons tous les ans délivré cette amélioration d'au moins 2%. Donc ça permet d'améliorer de 52,5 millions d'euros l'EBITDA du groupe. Les taux de change ont eu un effet négatif de moins 89,3 millions d'euros. C'est principalement, mais pas seulement, mais principalement le peso argentin Si vous avez suivi un peu en Argentine l'année dernière, et notamment avec les effets des élections, notamment en décembre, il y a eu une forte dévaluation d'un peu plus de 50%. Nous avons une exposition en Argentine cet impact se voit ici. Et ensuite, dans la dernière jambe, plus 41,6 millions d'euros, vous avez plusieurs effets, mais la principale, vous voyez que c'est très positif, c'est pour cette année la contribution d'Allied Glass. Donc là aussi, on a la variation de périmètre. Donc Allied Glass a apporté environ 50 millions d'euros de d'EBITDA additionnel au groupe. Donc tout à fait en ligne avec la performance attendue lorsque nous avions travaillé sur cette acquisition. Donc un très bon résultat. Donc, pour conclure, une forte augmentation de l'EBITDA, mais aussi de la marge d'EBITDA. Ensuite, la génération de trésorerie. Donc, vous voyez sur la gauche un graphe qui rappelle en fait l'évolution de notre endettement net et puis l'évolution du levier. Donc, le levier, c'est combien de fois cette dette représente l'EBITDA du groupe. Donc, vous voyez qu'on était à plus de 3 fois en 2018 et que depuis, le groupe a très nettement réduit ce levier, ce qui est extrêmement sain, évidemment, pour la structure du groupe. Donc, on a terminé l'année 2023 à 1,2 fois et à un endettement de 1,364 millions d'euros. Vous avez sur la droite le tableau de génération de free cash flow. Donc, en fait, on commence par l'EBITDA, que l'on vient de voir ensemble. Donc, on a une augmentation de l'EBITDA entre 2022 et 2023. C'est ce que les opérations nous rapportent. Et ensuite, on investit. Donc, on a des investissements que tous les ans, nous nous attachons à garder autour de 10% du chiffre d'affaires et qui sont notamment les investissements dont Patrice a parlé sur le capacitaire et aussi toute la décarbonation qui est engagée au niveau du groupe. Et ensuite, vous avez les variations du BFR, donc les variations entre les décalages de timing de paiement client-fournisseur et la variation des stocks. Sur l'année 2023, vous voyez que cette variation est négative et c'est principalement constitutif de la. Ça vient principalement, pardon, de la reconstitution des stocks dont je vous ai parlé, qui était principalement sur le premier semestre. À la fin, un free cash flow de plus de 300 millions d'euros extrêmement solide. Donc ici, le compte de résultat complet, et je vais venir à la proposition de versement du dividende. Donc vous avez ici le compte de résultat du groupe. La principale différence, pour rappel, entre l'EBITDA dont je viens de vous parler et le résultat opérationnel que vous voyez ici, ce sont les dépréciations et les amortissements qui sont à peu près 300 millions d'euros. Donc, on retrouve une forte amélioration du résultat opérationnel. Nous avons ensuite le résultat financier qui, là, est négatif. Ce sont toutes les charges d'intérêt, les résultats de change, qui est plus négatif qu'en 2022, principalement sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Même si le groupe est très protégé, nous avons une partie de notre endettement qui est en variable. Et cela donne une bonne progression du résultat net qui est passé de 356 millions d'euros en 2022 à 475 millions d'euros en 2023. Et donc, cela donne le résultat de base par action que vous voyez à 4,02 €. Donc, on a une augmentation du résultat net de 33% et qui donne 38% par action. Donc, la proposition est le versement d'un dividende par action de 2,15 € pour 2023, enfin relatif à 2023. Quelques mots sur le premier trimestre 2024, puisque nous avons publié notre chiffre d'affaires mercredi, nos résultats pardon du premier trimestre 2024 mercredi soir. Ce que l'on voit pour ce début d'année 2024, on a une activité qui est en baisse par rapport au premier trimestre 2023, mais j'allais dire totalement en ligne avec nos prévisions. Donc, pour reparler de la dynamique des volumes dont vous a parlé Patrice, l'année dernière, en 2023, on avait commencé l'année avec un trimestre 1 qui était encore très, très fort, dans la lignée, je dirais, de 2022, où il y avait cette demande extrêmement forte pour le verre, et plutôt toujours du stockage dans la chaîne. Et puis, à partir du deuxième trimestre, on a commencé à avoir un peu de tassement, et c'est surtout au second semestre que les volumes ont baissé en 2023. Donc, nous savons que sur tout le premier semestre 2024, nous allons avoir une comparaison à l'année dernière compliquée, je dirais. On savait déjà que l'activité serait en baisse par rapport à T1 2023. Donc, cette baisse, elle est de 20,5%. Le chiffre d'affaires du premier trimestre est de 836 millions d'euros. Et ça donne une croissance organique de 12,7%. Avec ce chiffre d'affaires, donc l'EBITDA ajusté du groupe est de 204 millions d'euros et avec une marge de 24,4%. Donc l'année dernière, nous avions une marge très forte sur le premier trimestre 2023, vous voyez 29,2%. C'était sous l'effet combiné à la fois de ces très très forts volumes et puis on était dans un contexte de passer des hausses de prix. Et enfin, l'endettement net à fin mars, notre levier est de 1,5 fois l'EBITDA ajusté, donc tout à fait toujours bien en dessous de en dessous de 2 fois dont nous avons parlé pour notre roadmap moyen terme.
Merci Nathalie. Je passe maintenant la parole à Wendy Coulfoulon, directrice RSE et juridique du groupe, qui va désormais vous présenter la gouvernance de Verallia.
Le conseil d'administration est composé de 13 membres, de 13 administrateurs et un censeur. On y dénombre 5 administrateurs indépendants, ainsi que 2 administrateurs représentant les salariés et 1 administrateur représentant les salariés actionnaires. Suite au départ à la retraite de Dieter Müller, M. Oliver Spatz a été nommé administrateur représentant les salariés par le comité d'entreprise européen fin décembre 2023. Il a ensuite été nommé membre du comité des rémunérations début janvier 2024. Le conseil d'administration s'est réuni 7 fois en 2023 et a tenu une executive session. Mis à part les thèmes récurrents de travail qui sont principalement donc l'information comptable et financière, le plan stratégique, le budget, le conseil d'administration s'est également réuni pour regarder les partenariats ou les investissements stratégiques et, par exemple, s'est réuni sur l'approbation de l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie. Comme vous pouvez le constater, le conseil d'administration, la composition du conseil d'administration témoigne d'une grande diversité, à la fois en matière de nationalité, donc nous avons des nationalités françaises, brésiliennes, allemandes, suisses et espagnoles, mais également en matière de compétences, donc des compétences à la fois sur la gouvernance, la compliance, à la fois sur le changement climatique, l'entrepreneuriat et bien évidemment l'industrie ou le dialogue social. Nous avons également un conseil d'administration qui compte 50% d'administrateurs indépendants et 50% d'administrateurs non indépendants, ce qui est conforme aux recommandations du code AFEP-MEDEF. La composition du conseil d'administration en matière de diversité, femmes-hommes, est également conforme aux recommandations du code AFEP-MEDEF, car nous avons 40% des membres étant des femmes et 60% des hommes, 60% des membres étant des hommes. Il est bien évidemment précisé que les administrateurs représentant les salariés ou les administrateurs représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris dans ce compte. Enfin, Verallia met en place un parcours d'intégration pour tous les administrateurs et un parcours d'intégration plus spécifique pour les administrateurs représentant les salariés tout au long de l'année. Et Verallia continue de former tous ses administrateurs. Par exemple, cette année, les administrateurs ont été formés sur la directive CSRD qui va être mise en place à partir de l'année prochaine. Verallia a 5 comités dépendants du conseil d'administration, un comité d'audit, un comité des rémunérations, un comité des nominations, un comité développement durable et un comité stratégique. Mis à part le comité stratégique, Les quatre comités sont présidés par une femme, Marie-Josée Donzion pour le comité d'audit, Cécile Tandeau de Marsac pour le comité des rémunérations, le comité des nominations et Virginie Elias par le comité de développement durable. Le comité stratégique étant présidé par M. Michel Giannouzi. Cette année, nous vous demandons le renouvellement de deux administrateurs, Marie-Josée Donzion ainsi que M. Pierre Vareil, qui arrive à échéance lors de cette présente assemblée. Nous demandons le renouvellement pour une durée de 4 ans, tel que préconisé dans nos statuts, pour ces deux personnes. Nous vous demandons aussi, cette année, la nomination des commissaires aux comptes pour le rapport de durabilité. À partir de l'année prochaine, donc à partir des comptes du 31 décembre 2024, nous allons devoir faire vérifier nos informations extra-financières qui seront dans le rapport de durabilité et ces informations devront être auditées. Il s'agit de la directive CSRD. Dans ce cadre, nous vous proposons de nommer à ces fonctions nos deux commissaires en compte qui sont en charge de la vérification également de nos informations financières, soit PricewaterhouseCoopers Audit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes du 31 décembre 2025, et BMA jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2024. Nous demandons la nomination de ces deux commissaires à la fois pour bénéficier de la complémentarité inhérente à un co-commissariat et également pour bénéficier de la complémentarité de cohérence entre les informations financières et extra-financières. Nous considérons aussi que de les nommer pour des mandats résiduels assez courts nous permettra de voir la pertinence de ce choix sur cette courte période.
Merci Wendy. Maintenant, Madame Cécile Tandeau de Marsac, la présidente du comité des nominations et du comité des rémunérations, va vous exposer les éléments de rémunération soumis à votre approbation dans le cadre des dispositions légales relatives au CNP.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, il vous est aujourd'hui demandé de vous prononcer sur la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2024, ainsi que sur les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2023. Alors, l'ensemble de ces éléments sont bien évidemment présentés en détail au paragraphe 3.3 du document d'enregistrement universel de Veralia. Alors, comme vous le voyez sur ce slide, vous avez aujourd'hui 6 résolutions qui sont soumises au vote, 3 sur la partie ex ante, c'est-à-dire la partie 2024 à venir, et 3 sur la partie ex post, c'est-à-dire sur la partie qui traite du passé, c'est-à-dire l'année 2023. Alors, concernant la politique de rémunération du président du conseil d'administration pour l'année 2024, cette politique se compose uniquement d'une rémunération fixe annuelle qui est inchangée en 2024 d'un montant de 350 000 euros bruts. Je vous rappelle que aucune rémunération variable, ni annuelle, ni long terme, n'est attribué au président du Conseil, ni même de retraite supplémentaire. En revanche, quelques avantages en nature, notamment un véhicule de fonction et un régime de mutuelle et de prévoyance. Concernant la politique de rémunération du directeur général pour 2024, alors cette politique de rémunération s'inscrit également dans la continuité de la politique de rémunération pour l'exercice 2023. Elle est complètement en ligne avec les pratiques du marché et de l'industrie, en conformité bien sûr avec les recommandations du code AFEP-MEDEF, et elle vise à assurer un niveau de rémunération compétitif tout en veillant à conserver un lien fort avec la performance de l'entreprise et à maintenir l'équilibre entre performance court terme et performance moyen-long terme. Les mesures de performance incluent à la fois, vous le savez, des critères financiers et des critères extra-financiers. Alors, de manière plus globale, elle se décompose de trois éléments principaux. La rémunération fixe qui est à 750 000 euros et qui est inchangée en 2024. Une rémunération variable annuelle dont vous avez la décomposition sous les yeux et qui se compose à hauteur de 70% de critères financiers et à hauteur de 30% de critères RSE. Alors, si on rentre dans un tout petit peu plus de détails, sur la partie des critères financiers, sur les 70%, on a 40%, c'est-à-dire la plus grosse partie qui est liée à l'atteinte d'un seuil d'EBITDA ajusté. Donc, c'est pour ça que vous avez le chiffre de 57%, c'est par rapport aux 70%, hein, mais sur les 100%, ça, c'est 40%. Et 30% qui sont liés à l'atteinte d'un seuil de cash flow opérationnel au 31 décembre 2024. Sur la partie RSE, donc 30%, on a la moitié de ces 30% qui est liée à un critère de sécurité au travail, hein, avec l'amélioration du taux de fréquence d'accident de travail avec ou sans arrêt qui doit être égal ou inférieur à 1,9 accidents par million d'heures travaillées. Hein, je vous rappelle la façon dont c'est calculé. Et puis, l'autre moitié, donc les autres 15%, c'est un critère de développement durable qui est lié à l'augmentation de l'utilisation du taux de calcin, dont Patrice a parlé préalablement. Et ce taux de calcin doit être au moins de 57,5% sur l'année 2024. Voilà l'objectif que nous avons fixé au directeur général. Alors, ça, c'était la partie, donc, ce que je viens de vous exposer, c'était la partie bonus annuel 2024, donc court terme. Et maintenant, le directeur général bénéficie aussi, bien évidemment, d'une rémunération variable long terme sous la forme d'actions de performance qui sont donc soumises à des critères de performance liés à la stratégie long terme du groupe. Alors, ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance sur une période de 3 ans courant de 24 à 26, donc pour les années 24, 25, 26, a été mis en place par le conseil d'administration en février dernier, conformément à la délégation octroyée par l'Assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2023. Dans le cadre de ce nouveau plan, un nombre maximum de 41 040 actions, qui correspond en fait à une attribution initiale de 38 000 actions, mais qui peut être survalorisé jusqu'à 41 000 actions si un des critères surperforme, donc a été attribué à Patrice Lucas en sa qualité de directeur général, sous réserve évidemment d'une obligation de conservation de 30% des actions définitivement acquises pour la durée du mandat et de l'atteinte évidemment des critères de performance suivants. Alors donc les critères, vous les avez sous les yeux. Donc, pour 40% de l'attribution, c'est un objectif de création de valeur théorique qui est défini comme l'augmentation d'un agrégat, qui est le suivant. C'est 8 fois l'EBITDA ajusté moins la dette financière nette avant paiement de dividendes et ou rachat d'actions. C'est mesuré sur la période entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2026. Donc ça, c'est pour 40%. Après, on a deux critères de TSR, donc c'est de la performance relative par rapport à nos pairs, par rapport à d'autres entreprises. Donc 15% de TSR par rapport à l'indice, aux sociétés de l'indice SBF 120, donc ça c'est pour 15%. Et pour 15%, un objectif également de TSR, mais là comparé à nos pairs, donc sur l'évolution de notre TSR par rapport à 3 ou 4 sociétés cotées concurrentes dans l'emballage en verre. Les derniers 30% sont liés à des objectifs de développement durable qui sont décomposés de la manière suivante. Donc, un objectif de réduction des émissions de CO2 et un objectif d'augmentation de pourcentage des femmes. Alors, Cet objectif, je peux vous l'indiquer tout à fait précisément, puisque sur les femmes managers, l'objectif serait d'atteindre, est d'atteindre 35% en 2026, incluant notre nouvelle activité au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la situation, c'est que nous sommes à 32,5%. Alors là, vous avez une page de synthèse sur ce que je viens de dire, donc avec l'ensemble des éléments qui font partie de la rémunération de Patrice. Alors, donc là, on va parler de l'année 2023 maintenant. Donc, il vous est également demandé de vous prononcer sur les éléments de rémunération versé ou attribué aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023. Plus précisément, il vous est demandé de vous prononcer sur la rémunération de Michel Jannouzi en qualité de président du conseil d'administration au titre de 2023, ça c'est la 12e résolution, et la rémunération de Patrice Lucas en qualité de directeur général, donc au titre de 2023, ça c'est la 13e résolution. Ces rémunérations comprennent une rémunération variable annuelle. Alors, pour Michel Jannouzi, il s'agit d'une partie qui a été versée en 2023, mais qui concernait l'exercice 2022. Donc, on en a déjà parlé l'année dernière. C'est la 12e résolution. Pour Patrice Lucas, il s'agit de la partie versée en 2023 au titre du mandat de directeur général délégué pour l'exercice 2022, de la partie versée en 2023 au titre de son mandat de directeur général au titre de l'exercice 2022, et enfin, dernière partie, la partie attribuée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Donc, sous les yeux, vous avez les objectifs et l'atteinte des objectifs pour 2023, donc avec le critère RSE. Alors, donc pour mémoire, donc critère RSE, 30% de la rémunération variable annuelle. Et je ne comprends pas parce que je devrais avoir un slide avant. Pardon, je commence par la rémunération, par les critères financiers, puisque après vous avez le total. Donc les critères financiers, 70%, donc 40% sur l'EBITDA ajusté, 30% sur la partie cash flow opérationnel. Vous avez les résultats là, sous les yeux, et vous voyez que sur les deux critères, il y a une surperformance. Ensuite, sur la partie RSE, là, vous voyez que sur l'augmentation d'utilisation du calcin, le critère n'a pas été atteint. Patrice vous en a expliqué les raisons juste avant. Donc, on est à 0%. Sur le taux de fréquence d'accident du travail, le critère est atteint. Et donc, si on fait l'addition de l'ensemble de ces critères, le taux d'atteinte global pour la rémunération variable annuelle est de 114,54%. Alors ensuite, vous avez sous les yeux le taux d'atteinte des objectifs du plan 21-23. Donc là, il s'agit de la rémunération variable long terme. Et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les critères, mais si on regarde simplement, si on s'attache simplement à regarder le taux d'atteinte global de ce plan d'action de performance, il est de 110%. Alors, au titre de la 12e résolution, sont soumis à votre vote ex post les éléments de rémunération versés ou attribués à Michel Jannouzi, donc président du conseil d'administration en 2023, et qui sont résumés dans le tableau qui s'affiche à l'écran. Donc, j'ai déjà parlé de la rémunération fixe, la rémunération variable pour un montant de 493 723 euros. Je rappelle qu'il s'agit de l'exercice 2022. Pas de rémunération exceptionnelle, pas de rémunération au titre de mandat d'administrateur et Et le reste, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est donc la 12e résolution. Pour Patrice Lucas, vous avez le détail de ce dont on vient de discuter. Donc, rémunération fixe, 750 000 euros. Les deux premiers chiffres, les deux premiers montants du bloc de rémunération variable, c'est donc des montants qui concernent l'exercice 2022. Et les 859 050 euros, et il s'agit de la rémunération variable de l'exercice 2023. Le reste, je l'ai déjà détaillé. Alors, concernant la rémunération des administrateurs, ce qui vous est proposé, c'est deux choses. D'une part, de maintenir inchangée l'enveloppe annuelle, qui est une enveloppe de 850 000 euros qui avait été décidée l'an passé. Et puis également, je vous précise que les montants pour la rémunération des administrateurs restent totalement inchangés par rapport à l'année dernière, que ce soit la partie fixe ou la partie variable. Donc cette année, le montant total payé est de 617 666 euros. Je précise d'ailleurs que seuls les administrateurs indépendants perçoivent une rémunération au titre de leur mandat. Donc, on a une enveloppe de 850 000 euros. Cette année, on a payé 617 000 euros et 676 euros. Et donc, tout ça reste inchangé pour 2024. Dernier sujet que je tiens à rapporter aujourd'hui, c'est le ratio d'équité entre la rémunération, vous savez qu'il s'agit d'un exercice obligatoire en France, c'est le ratio d'équité entre la rémunération des mandataires sociaux exécutifs et la rémunération moyenne et médiane des salariés en France. Alors, Veralia s'est référé pour ce calcul aux lignes directrices de la FEPMEDEF. Ce ratio d'équité a ainsi été calculé sur la base des rémunérations fixes et variables versées au cours des exercices 19, 20, 21, 22 et 23 et des actions de performance attribuées au cours des mêmes périodes, valorisées à leur valeur comptable au moment de leur attribution et proratisées, bien évidemment, sur l'exercice en fonction de la durée. Le périmètre de calcul comprend Veralia, sa filiale française directe Veralia Packaging, et l'ensemble de ses filiales indirectes verrières situées en France, soit 97% de la masse salariale française. Alors, pour 2023, en ce qui concerne le président du Conseil, le ratio sur coût de la rémunération moyenne est de 25 et le ratio sur coût de la rémunération médiane est de 29. Pour la même année, donc, en ce qui concerne le directeur général, le ratio sur coût de la rémunération moyenne est de 28 et celui sur la rémunération médiane est de 31. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Cécile. Monsieur Nicolas Brunetot va maintenant présenter les conclusions des rapports émis par le Collège des commissaires aux comptes de Veralia, les cabinets PwC et BMA.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les actionnaires, donc, au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets BMA et PwC, j'ai le plaisir de vous rendre compte de notre mission au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Et je vous propose, conformément à l'usage de cette Assemblée, de vous résumer les termes de nos différents rapports qui ont été tenus à votre disposition par la société, et qui figure dans le document d'enregistrement universel 2023. Nous vous rappelons que l'objectif fondamental de notre mission, c'est d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes, et que ceci ne comporte pas d'anomalies significatives. Et pour ce faire, nous intervenons dans les filiales significatives du groupe Veralia, tant en France qu'à l'étranger. Alors, je vais commencer par notre rapport sur les comptes annuels de Veralia SA. Je pense que... Ah, c'est moi qui dois passer. Hein. Donc, ces comptes ont été préparés selon les principes comptables français. Nous avons émis une opinion sans réserve ni observation. La justification de nos appréciations apportées sur le point clé de l'audit relatif à l'évaluation des titres de participation et la vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires n'appellent pas de commentaires particuliers. Je passe maintenant au rapport sur les comptes consolidés du groupe. Ils ont été préparés selon le référentiel IFRS. Et conformément à nos normes, nous avons mis l'accent sur la valeur recouvrable des goodwill qui constitue le point clé de l'audit. Et comme pour les comptes annuels, nous avons certifié les comptes consolidés du groupe sans réserve ni observation. Nous avons également vérifié la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport de gestion et nous n'avons formulé aucune observation. Je passe maintenant à notre rapport spécial sur les conventions réglementées pour vous dire que nous n'avons été avisés d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé et vous préciser que par ailleurs, nous avons été informés de l'exécution au cours de l'exercice écoulé de la convention relative à l'emprunt amortissable souscrit auprès de BPI France et dont les modalités sont décrites dans notre rapport. Pour mémoire, cette convention avait déjà été approuvée par l'Assemblée générale du 11 mai 2022. Pour terminer, nous avons également émis des rapports dans le cadre des résolutions à caractère extraordinaire relatives à des opérations en capital. Nous avons formulé aucune observation sur les modalités et informations données dans le rapport du Conseil d'administration. Nous établirons le cas échéant des rapports complémentaires lors de l'usage éventuel de ces autorisations par le Conseil d'administration. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Nicolas. Nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses. Je vous remercie par avance de bien vouloir vous présenter au moment où vous poserez votre question et nous vous ferons plaisir d'y répondre.
Ah oui.
Question à madame, la précision, madame la directrice financière, j'ai vu que le levier augmentait.
Ça marche pas le micro.
Si, si.
Ça marche.
Ah, faut le mettre. Bon.
Faut le, mettre. Le levier avait monté à 1,5. Je suppose que c'est essentiellement dû à la baisse de l'EBITDA et non pas une augmentation en valeur absolue de l'endettement financier. Ce n'est pas l'endettement financier. Autre question sur le ratio d'équité. J'ai vu qu'il y avait une forte variation des chiffres entre l'exercice 2022 et 2023, si j'ai bien lu. À quoi c'est dû? Et enfin, dernière précision un peu plus vaste. Hier, c'était l'Assemblée générale de Danone. Je ne vous surprendrai pas qu'on a parlé d'emballage plastique, verre, métallique. Est-ce que vous pourriez, monsieur le directeur général, nous faire une petite précision sur l'avantage économique et écologique du verre par rapport aux autres, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, je...
Merci pour votre question. Je vais donc commencer. Essayer de gérer le micro aussi, ce n'est pas évident. Donc, effectivement, le levier a augmenté. La dette, si vous regardez, vous avez très bien vu, la dette nette a augmenté sur le premier trimestre 2024. Et en fait, le groupe a consommé du cash sur le premier trimestre. Donc, c'est pas des nouveaux prêts ou autres qu'on aurait contractés. Donc, le premier trimestre, vous avez vu qu'on avait une baisse de l'EBITDA totalement. Donc, c'est un des éléments par rapport à l'année précédente où là, sur Q1, on avait généré du cash. On a aussi des effets de temps sur les CAPEX. Hein. On fait des investissements importants. Donc on a le site de Campobon qui est en cours, on vient de démarrer Cognac mais on paye encore la fin des CAPEX, le site hybride Saragosse fin d'année, donc on a la fin de ces investissements à payer. Et sur le début d'année on avait aussi un effet sur la variation du BFR, mais effectivement ce que l'on voit c'est que sur Q2 on voit une génération positive revenir.
Concernant votre deuxième question sur le ratio d'équité, effectivement, ces tableaux sont assez, d'abord, difficiles à lire parce que la méthode demandée est assez spécifique. Ce qui fait le gros changement entre 2022 et 2023, c'est le changement d'organisation à la tête de l'entreprise, puisqu'en 2022, j'étais président et directeur général et qu'on a décidé de séparer les deux fonctions avec un président et un directeur général. Et donc, ce qu'il faut, c'est regarder la somme des deux. À partir de l'année prochaine, vous aurez une base de comparaison qui sera beaucoup plus stable d'une année sur l'autre. Donc, ce changement d'organisation entre 2022 et 2023 provoque effectivement une difficulté à lire les chiffres. Mais vous aurez, à partir de l'année prochaine, une base de comparaison qui sera beaucoup plus stable d'une année sur l'autre.
Bien. Et quant au vert, je ne peux que parler en bien du vert. C'est un matériau magique. Merveilleux. Absolument impressionnant à voir produire en production. Donc, les qualités du verre, on les connaît. D'abord, recyclable à l'infini. Hein, je l'ai évoqué. Contrairement à d'autres solutions d'emballage, on a une boucle qui est fermée. On ne renvoie pas notre verre recyclé vers d'autres secteurs, vers d'autres filières. Donc, nous sommes responsables de ce recyclage. D'ailleurs, nous nous engageons, par exemple, en France, à récupérer l'ensemble du verre qui est récupéré à travers les bennes. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 80% du verre qui est consommé qui est récupéré. Et nous, il est réparti au prorata des producteurs sur le sol français. Deuxièmement, il y a une qualité. Alors, évidemment, on est jugé parti. Donc, quand je parle du verre, on va me dire que je ne suis forcément pas objectif. Mais il y a une qualité du verre qui, à mon avis, les consommateurs n'ont pas forcément encore totalement conscience. C'est le côté santé autour du verre. Le fait que ce produit soit inerte, il préserve totalement les aliments, la boisson, les aliments. Donc ça veut dire que par rapport à d'autres solutions, il n'y a aucun phénomène de migration de la solution d'emballage vers le produit. C'est pour ça que nous sommes extrêmement confiants sur le fait que c'est l'emballage du futur, avec d'autres, mais nous pensons que le verre va prendre et va avoir des opportunités. C'est un objet aussi que l'on peut mettre en forme, et encore une fois, avec les exemples que je vous ai présentés, il permet de sublimer les produits de nos clients. Et donc, nous allons avoir des opportunités de croissance. Le sujet, c'est la réduction des émissions de CO2. Parce que pour être honnête, contrairement à d'autres solutions d'emballage, à la production, nous émettons plus de CO2. Une fois que c'est produit, c'est parfait. Donc toute la partie aval est parfaite. En amont, c'est moins le cas. C'est pour ça que toute notre feuille de route de décarbonation et de réduction des émissions de CO2, scope 1, scope 2, est fondamentale. C'est pour ça que tout ce que nous mettons en œuvre en matière de nouvelles technologies pour passer de gaz intensif à électro-intensif est fondamental. Et donc, encore une fois, 2024, c'est l'année de l'innovation. Nous allons être plus parler de projet, ça va être une réalité, et il va nous revenir d'apprendre, d'optimiser, et ensuite de déployer.
Bonjour, Christian Chabrerie, actionnaire individuel. J'avais une question. Vous avez organisé un concours de design qui est ouvert aux étudiants en école de design. Et pourquoi ce n'est pas ouvert aux écoles d'ingénieurs et aux écoles de commerce?
C'est une bonne question. On pourrait aussi l'ouvrir. La tradition fait que c'est effectivement un événement important en France. Pas qu'en France d'ailleurs. C'est un concours que nous organisons dans les principaux pays européens. Naturellement, on va vers les écoles de design parce que c'est là où elles ont une capacité à s'exprimer, mais on pourrait éventuellement l'ouvrir à d'autres écoles, oui. Why not?
Bonjour, Thierry Collard, actionnaire individuel depuis moins d'un an. J'ai quatre petites questions. Donc, vous faites la distinction entre vin tranquille et vin pétillant. Donc, est-ce que c'est lié à l'analyse du marché ou à la fabrication des produits? Donc, pourquoi cette distinction? Ensuite, deuxième question, félicitations pour vos résultats 2023. Le premier trimestre est nettement moins bon en 2024, comme on l'a vu. Comment expliquez-vous, ou quels commentaires faites-vous sur la réaction du marché très positive hier? Troisième question sur les fours électriques. Dans combien de fois, en fait, dans quelle mesure ça coûte plus cher en termes de conception, de consommation et d'entretien par rapport aux fours habituels? Et quatrième question, pouvez-vous donner un peu la répartition de chiffre d'affaires sur vos plus gros clients, par exemple Pernod Ricard, etc. Merci.
Très bien. Merci pour vos questions. Bon, votre première question, c'est une question de segmentation entre vin tranquille et vin pétillant, parce que ce sont deux marchés différents, d'ailleurs qui appellent deux produits différents. Une bouteille pour des vins pétillants, c'est une bouteille qui est plus épaisse, parce qu'à l'intérieur, j'ai de la pression. Donc ce sont deux bouteilles différentes, et ça adresse des marchés différents. Bien que, si je prends rien que l'exemple de la France, j'ai un marché du champagne, et puis j'ai un marché du vin bordelais, du vin bourguignon. En Italie, c'est pareil, avec du vin traditionnel, enfin du vin tranquille, et puis du vin pétillant, avec le Prosecco en particulier, qui a explosé sur ces cinq dernières années. Donc c'est la volonté de coller à la segmentation du marché, qui nous permet de la comprendre, et aussi de coller à une segmentation produit. Sur la réaction du marché hier, toujours compliqué de parler de réaction du marché, mais ce que je pense, c'est que, encore une fois, on voit bien qu'on a fait une belle année 2023, qui, entre nous, n'a pas été totalement reconnue par le marché, parce qu'en fait, on est rentré dans un cycle où il y avait une très bonne performance sur le premier semestre, et une performance qui commençait déjà à prendre en compte une réduction de l'activité. Donc, en fait, il y a, une situation qu'on pourrait qualifier d'attente, de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2024. Et comme on se l'a expliqué, on est en 2024, on a une situation qui est inversée par rapport à 2023, où on a une activité qui a commencé fort, et puis on a fait un atterrissage. Et en fait, ce qu'on attend de 2024, c'est un peu l'opposé, où j'ai un marché qui démarre doucement, mais qui se récupère progressivement, et donc on devrait avoir un second semestre plus fort. Donc je crois que, en fait, je pense que ça, c'était déjà un peu intégré par les analystes et les actionnaires, sur le cours de l'action. Et je pense qu'a été vu comme une bonne nouvelle le fait qu'on voit des signaux de récupération du marché, certes encore faibles, certes à confirmer, mais nous restons confiants sur notre vision 2024. Et c'est pour cela que nous avons réitéré notre prévision pour 2024, qui repose sur cette récupération de l'activité graduelle et sur une amélioration de la profitabilité en séquence, puisqu'on va avoir un premier semestre 2024, qui sera inférieur à 2023, mais on va avoir un second semestre 2024 qui sera meilleur que 2023, et en séquence, un second semestre 2024 qui sera meilleur que le premier semestre 2024. Donc on est dans cette séquence de récupération et d'amélioration. Et donc, comme nous l'avons qualifié, 2024, année de normalisation, et normalement, derrière, une croissance que l'on devrait retrouver avec les fondamentaux du marché. Sur le four électrique, conception. On a plus de 20 ans d'expérience, voire 30 ans, je ne sais pas exactement, mais je ne vais pas remonter, mais on a des années d'expérience sur la construction de fours traditionnels. Donc évidemment, quand on parle de fours traditionnels, c'est une conception qui a été optimisée année après année, ce qui n'est pas totalement le cas, pour être honnête, du premier four électrique. Donc notre premier four électrique, c'est un pilote, il a été défini d'ailleurs avec une grande société d'ingénierie française, FIV, en partenariat avec eux sur la conception de ce four. Ce qu'on attend, c'est que, premier pilote, il faut qu'on fasse fonctionner ça, il faut qu'on apprenne, parce que faire du verre avec de l'électricité, c'est pas pareil que de faire du verre avec du gaz. Un peu comme quand vous cuisinez, si vous me permettez, si vous faites votre cuisine au gaz ou cuisine à l'électricité, c'est pas tout à fait pareil, vous avez besoin d'adapter un peu votre recette ou la façon dont vous allez cuire, pour un résultat identique. Là, donc on est dans cette phase-là, donc en apprentissage. Et bien évidemment, en fonction de tout ce qu'on va apprendre, ça pourra avoir des conséquences sur la définition de nos fours. Donc nous sommes dans cette phase-là. Donc je ne peux pas... oui, il y a un coût supplémentaire. Aujourd'hui, quand je regarde le coût d'investissement de ce four électrique par rapport à nos fours traditionnels les plus optimisés après 20-30 ans, mais bien évidemment, c'est, nous voyons ça comme quelque chose de temporaire. Et au fur et à mesure où on va avancer, on va déployer, l'écart sera marginal. Dernière question sur chiffre d'affaires par client. C'est une information qu'on ne donne pas. Nous sommes dans une relation privilégiée avec nos clients, donc c'est une information que nous ne divulguons pas.
Enfin, sans donner nominativement le chiffre d'affaires par client, vous avez vu que la répartition du top 10 des clients, donc les 10 clients qui représentent les plus importants du groupe, et c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est relativement faible par rapport à nos concurrents, c'est environ 17% du chiffre d'affaires du groupe, quand tous nos concurrents ont une base de clients beaucoup plus concentrée, généralement deux fois plus concentrée que Verallia. Donc quand Patrice vous parle des 10 000 clients, vous voyez qu'on a un grand nombre de clients, et donc le premier client du groupe d'ailleurs fait moins de 5% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, sans donner les noms des clients, pour des raisons évidentes de confidentialité, vous avez une idée à peu près de la manière dont le chiffre d'affaires est réalisé.
Bonjour, Monsieur Gendaire, actionnaire individuel. J'ai une petite question. J'essaie toujours d'éviter le verre, en particulier le week-end, parce que je fais du vélo et ça a tendance à couper les roues. Est-ce que vous travaillez sur les éclats de verre, justement, pour que dans la ville, ça soit moins embêtant? Il y a beaucoup de cyclistes et les roues des villes ne sont pas forcément bien nettoyées. Après, j'avais des questions un peu plus sérieuses concernant votre capital. J'ai vu que vous avez, c'est dans le rapport annuel, page 430, me semble-t-il, réduit votre autocontrôle au 15 février. Je me posais la question concernant... vous avez vendu 2 millions d'actions. J'ai vu aussi que BWSA avait... augmenté au 15 mars, enfin à la date du 15 mars 2024, d'à peu près de 400 000 actions. Je voulais savoir quels étaient les. Est-ce qu'il y avait des. À part le seuil de 30%, quels sont les. Je ne sais pas si BWSA veut répondre, quels sont les objectifs de BWSA? Et surtout, j'avais une question sur les droits de vote double, puisque BWSA est à votre capital depuis l'introduction en bourse. Et je ne vois pas de droit de vote double. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est, ou est-ce qu'il y aura des droits de vote double? Après, j'avais une autre question concernant les salariés actionnaires. Vous dites 0,5% pour les salariés actionnaires pour cette année, enfin l'objectif, un objectif à terme de 5%. Est-ce que c'est une politique que vous souhaitez continuer sur la durée, ou globalement, une fois que le seuil de 5% sera atteint, vous dites, ben voilà, c'est un plafond? Sachant que j'ai vu aussi que sur le rapport annuel, les salariés vendent aussi une partie d'actions, ce qui paraît tout à fait normal. Page 135, ils en vendent à peu près 0,2% en moyenne par an. Donc est-ce que les 0,5% dont vous parlez, c'est du net ou c'est ce que vous proposez sans ce qui est vendu par les salariés? Et après, j'avais une question concernant votre verre économique. Vous avez un verre qui s'appelle Ecovia, enfin Ecologique, pardon. Est-ce que vous margez plus dessus? Je crois qu'il y a marqué que vous en vendez 20% actuellement. Quel est votre objectif à terme, et est-ce que c'est des verres qui sont plus rentables? Et le marché des USA ou un marché autre que l'Europe, l'Amérique du Sud, est-ce que vous y réfléchissez? Merci. Désolé, beaucoup de questions.
Bien, je vais démarrer et puis Michel va compléter avec... Bon, sur le verre et les éclats de verre sur la route. En fait, on est en train de signer un partenariat avec les fabricants de pneus, donc on plaisante. Je plaisante. Non, bah écoutez, non, on n'a pas de solution miracle sur les coupures. La seule et bonne solution, c'est de l'éducation, et c'est que les verres soient bien déposés dans les bacs de collecte faits pour cela, ce qui va favoriser le taux de... Parce qu'aujourd'hui, on a 80%, donc on pourrait imaginer... D'ailleurs, nous avons un plan d'action global en Europe pour passer à 90% au niveau global européen. Aujourd'hui, la France est à un peu plus de 80%, donc... Non, mais par contre, éducation éducation et formation pour aller déposer dans les points de collecte, ça me paraît être la bonne solution. Je vais prendre dans le désordre et Michel répond. Sur l'actionnariat salarié, effectivement, c'est donné un objectif de 5%. Ce qui nous paraît un bon objectif. Et encore une fois, la volonté d'associer l'ensemble de nos employés à la bonne marche de l'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu moins de 4, autour de 4. Mais il y a des entrées-sorties. Surtout qu'on est dans un cycle où, vous savez que c'est bloqué sur une période, donc au bout d'un certain temps, il y a des sorties. Et ça, on ne les maîtrise pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, effectivement, on met 0,5 et le net, il est plutôt de 0,2, 0,2, 0,3. Et donc, je pense qu'on est encore parti pour faire, et ça, ce sera bien sûr à discrétion du Conseil et puis de l'Assemblée Générale, de proposer ces plans pour maintenir ce niveau entre 4 et 5 %. Sur le sujet capital.
Donc, sur l'annulation des titres qui a été opérée, effectivement, comme vous l'avez vu, on a fait un programme de rachat d'actions entre 2022 et 2023 pour 50 millions d'euros de titres. On avait déjà constitué précédemment un certain nombre de titres autodétenus, donc un capital de titres autodétenus dans l'entreprise. Et le Conseil a estimé que pour reluer les actionnaires, il était intéressant d'annuler une grande partie de ces titres. Donc c'est une opération assez classique de rachat et d'annulation de titres qui a été opérée effectivement en début d'année, au mois de février. Concernant les intentions de BWSA, je ne peux pas m'exprimer à leur place, vous l'imaginez bien. La question des droits de vote double est simple. Les droits de vote doubles sont au nominatif. À partir du moment où les titres ne sont pas inscrits au nominatif, ils n'ont pas, au bout de 2 ans, la possibilité d'avoir des droits de vote double. Donc c'est BWSA qui gère sa participation de la manière dont il l'entend. Et je n'ai pas à commenter sur leurs indications. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous voyez qu'ils se sont un petit peu renforcés récemment, avec, pour l'instant, l'intention de ne pas dépasser le seuil des 30% qui les conduirait, de par la législation en vigueur, à faire une offre d'achat sur la société, ce qui n'est pas aujourd'hui leur intention. Bon, après, ça peut changer dans le temps.
Est-ce que vous savez s'ils ont des droits de vote qui sont déjà nominatifs et qui pourraient, d'ici 2 ans, ou, parce que ça, vous avez une vision, normalement, des comptes...
Ça peut changer à la minute où vous parlez.
Je comprends bien, mais s'ils sont déjà nominatifs depuis un an et demi...
Non, mais il suffit que, dans une minute, ils décident de les passer aux porteurs, et les droits de vote double sont perdus.
D'accord, donc, mais l'effet temps, il marche. Il faut attendre 2 ans. Donc, s'ils sont déjà au nominatif, on sait qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas vendus, ils risquent de...
Non, mais ils peuvent les basculer au porteur d'un moment à l'autre. Donc, ce n'est juste pas possible de le prévoir. C'est ça, mon point. D'accord. Je ne peux pas prévoir ce qu'ils vont faire. Et la possibilité de le faire existe. Donc, toutes les options sont ouvertes.
Bien. Et votre dernière question sur ce que vous appelez la bouteille écologique. Donc on a deux sujets là. On a effectivement la gamme Ecova, je pense, c'est à quoi vous faites référence, qui est une proposition de produits avec un allègement que l'on met en œuvre. Donc ça, c'est une chose, ça représente déjà une bonne part. Et puis il y a ce que je vous ai présenté en particulier, la gamme R, ce que nous allons appeler la gamme R, avec le premier exemple qui est la Bordeleuse R, où là on fait une rupture. 300 grammes, c'est une véritable rupture. Bouteille bordelaise standard, c'est 360-380 grammes. Donc on voit que là, on n'est pas dans de l'amélioration continue, on est dans une vraie rupture. Sur ces bouteilles, bien sûr, nos coûts, nos prix, on les gère en euros à la tonne. Notre unité, c'est de l'euro à la tonne. Mais vu du client, ce sont des euros au produit. Donc, ce qui est intéressant avec cette proposition, encore une fois, c'est que c'est un produit que je pourrais qualifier d'arme anti-inflation, parce que finalement, au lieu d'acheter une bouteille et d'emballer avec une bouteille qui fait 400 grammes, si j'ai une bouteille à 300 grammes, vous voyez que ça veut dire qu'il va forcément y avoir une réduction assez significative. Pour nous, c'est à isotonne, la capacité de faire plus de produits, proposer plus de produits à nos clients. Et donc, c'est une opportunité aussi pour maintenir nos marges, voire plus. Et dernier point, vu du client, c'est une réduction d'émissions de CO2. Donc c'est faire plus avec le même tonnage. Donc ça coche tout un tas de cases. C'est pour ça que c'est extrêmement stratégique. C'est pour ça aussi qu'on pousse nos équipes techniques à avancer sur ce sujet. Et on a besoin de travailler avec nos clients pour avancer sur, sur ces produits. Parce que, en fait, dans l'inconscient collectif de tout consommateur, plus la bouteille est lourde, plus le produit est premium. C'est ce qui s'est passé sur ces 15-20 dernières années. Vous voyez qu'il y a besoin d'une bouteille lourde, on a l'impression d'avoir quelque chose dans, dans les mains, et donc il y a un côté premium qualitatif. Donc là, il y a une petite marche arrière à faire dans la perception de nos clients, et, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Ah, pardon. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos priorités. Clairement, vous avez noté que donc on a fait l'acquisition d'Ally Glass au UK. Vous avez noté aussi que nous sommes en cours de finalisation. Nous sommes entre la signature et le closing du deal avec Vidrala Italie, qu'on devrait, qu'on voit se terminer à la fin du second ou troisième trimestre, donc dans quelques mois. On reste actif d'un point de vue analyse des opportunités d'acquisition. Et pour nous, chaque fois que ça fera sens, on essaiera de les saisir, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, hein, les contraintes antitrust, de compétition. Et aujourd'hui, on a l'assiette qui est assez remplie, j'ai envie de dire. Mais s'il y a des opportunités qui se présentent, on les regardera. Mais le Nord-Amérique n'étant pas forcément une priorité parmi d'autres. On a déjà du travail, encore une fois, devant nous, avec nos nouvelles technologies, l'intégration de Vidrala Italie, les nouveaux fours, le nouveau four qu'on va ouvrir au Brésil, etc.
Merci. Monsieur le directeur général, vous avez montré tout à l'heure qu'on n'était pas dans une activité lisse, mais qu'il y avait des creux et des remontées, etc. Moi, je voudrais comprendre quelle est la flexibilité de l'outil de production que nous avons. Comment vous faites ? Est-ce que vous faites, vous changez rien en production et vous faites des stocks, ou est-ce que vous êtes obligé de ralentir l'activité à droite, à gauche, et est-ce que ça a un impact sur les 11 000 employés de la société ? Et la deuxième question, j'ai vu que vous consommiez 2 mégawatts par tonne de verre facturé. J'ai pas trouvé le nombre de tonnes de verre expédié ou facturé, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, comme il y en a, pour connaître à peu près notre consommation mondiale de, en mégawatts, et voir quel est, comment vous, ces mégawatts, comment vous les avez, quel est le mix énergétique, est-ce qu'on a une partie qu'on produit par nous-mêmes ou pas, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ces mégawatts mondiaux que nous consommons. Merci.
Merci. Donc la première, votre première question sur l'activité et l'adaptation, et notre adaptation en production. Premièrement, on est plutôt sur une activité qui est, comme je l'ai montré, c'est l'histoire des données des 10 dernières années le montre, 2023 étant une exception. 2023 étant une exception quand on regarde les 10-15 dernières années. Hein? Et en fait, non, j'insiste là-dessus parce que c'est une surprise pour tous et je pense qu'on va revenir à partir de 2025-2026 sur cette activité stable. Nous devons reconnaître que le Covid et le rebond post-Covid a perturbé l'ensemble des référentiels. Parce qu'à l'opposé, quand vous voyez la croissance de 2021 et 2022, parce que je veux dire, elle est un peu anormale par rapport aux tendances. Donc nous voyons une normalisation post-Covid avec un effet en 2023, encore une fois, qui est lié à deux années d'inflation sans précédent en Europe et forcément un peu une perte de pouvoir d'achat. Donc baisse de consommation, je ne reviens pas sur ce que j'expliquais. Donc juste pour corriger le fait que ce n'est pas une activité qui est cyclique comme ça, 2023 étant l'exception. Alors, très bonne question sur l'adaptation maintenant. Comment on fait pour s'adapter ? Parce qu'effectivement, on est plutôt une industrie de coûts fixes. Quand on a un four qui tourne, bah, il tourne 7 jours sur 7, toute l'année, et on ne les arrête pas. Arrêter un four, si on veut préserver l'investissement et la qualité de production du four, c'est un processus qui prend, on est obligé de vider le verre, donc il faut refroidir Hein, un gradient de température, il faut le refroidir, il faut vider le verre. Un processus qui prend 2 à 3 semaines. Et pour le redémarrer, c'est pareil, c'est 2 à 3 semaines. Donc, j'arrête pas un four le week-end pour redémarrer le lundi matin, pour être simple. Donc, en 2023, et face à l'ampleur de la baisse que nous avons finalement vue fin août, nous avons pris des dispositions un peu exceptionnelles, parce qu'on a décidé d'adapter de manière assez drastique l'ouverture de nos lignes, parce qu'on a tourné sur le Q4 autour de 80% de notre capacitaire. Donc là, en fait, on a fait quoi ? Deux types de décisions. On a en permanence des fours qui sont en maintenance, en réparation. Vous savez qu'à mi-vie, soit on fait une opération de maintenance qu'on qualifie de partielle, c'est-à-dire qu'on arrête le four et on remet à niveau les réfractaires du four. Parce qu'en fait, la glace, le verre, le bain en fusion érode les réfractaires. Et ça, on le fait au bout de 5-6 ans. Et puis, il y a des fours qui arrivent en fin de période, en fin de vie complète, au bout de 10-12 ans. Donc là, on casse tout et on reconstruit. Bon. Donc tous les ans, on a des fours qui se retrouvent soit en maintenance partielle, soit en maintenance totale. Donc on a des arrêts de fours dits programmés. Donc ce qu'on a fait en 2023, il y a des fours qu'on a anticipé leur arrêt. D'accord ? Ils avaient prévu d'être réparés sur ces 2 mois en général. Hein. On a dit on va l'arrêter plus tôt. Parce que tu sens celui-ci, il va falloir le réparer. Et puis il y en a d'autres qui étaient à l'arrêt. On a dit on va les redémarrer plus tard. Et ça, c'est le meilleur moyen de variabiliser nos coûts. Parce que dans ce cas-là, je ne consomme pas d'énergie. Et donc, c'est la meilleure façon de variabiliser. Et puis, et la deuxième façon qu'on a été obligé de mettre en œuvre en 2023, fin 2023, c'est qu'on a été obligé d'arrêter des lignes. Parce que nous avons absolument tenu à maîtriser nos stocks pour rentrer dans de bonnes dispositions en 2024. Arrêter des lignes, ça veut dire quoi ? Un four, donc j'ai un four avec mon bain en fusion, et derrière j'ai des lignes de production qui tirent sur le verre pour former les bouteilles. En général, j'ai 3 ou 4 lignes. Donc, il nous est arrivé fin d'année dernière de décider d'arrêter une ligne et de tourner qu'avec 2 lignes sur 3 ou 3 lignes sur 4 ou 2 lignes sur 4. Donc ça, c'est pas le moyen le plus efficace parce que là, du coup, le four, je le maintiens en fusion et j'ai de l'énergie. Mais nous avons décidé de le faire, encore une fois, avec une volonté de garder nos stocks sous contrôle. À l'heure où je vous parle, avec le rebond de l'activité tel qu'on le voit, nous avons encore un peu d'adaptation, mais beaucoup moins. On est au-dessus de 90% de taux d'utilisation. Et la non-utilisation, elle n'est faite que d'arrêt de four. Que d'arrêt de four. Donc nous sommes dans une bonne adaptation vis-à-vis de nos coûts. Sur
l'énergie, hein, je ne vais pas vous lire tout le tableau. Vous avez dans le document qui a été enregistré, vous allez à la page 206, vous avez le détail de toutes les consommations énergétiques. Et pour résumer, sur 2023, on a consommé 10 871 000 mégawattheures. Puis après, vous avez le détail par catégorie, par fuel, électricité, etc. Donc, on ne fabrique pas d'électricité donc, ou de gaz. Alors, on a des partenariats avec des fabricants. Notamment, on a mis des panneaux solaires sur certaines de nos usines. D'accord, mais vous comprendrez bien que la production de ces panneaux solaires, même dans l'usine, représente un effet presque epsilonesque par rapport à la consommation d'une usine. Donc, par rapport à la consommation que l'on achète à l'extérieur, c'est 99,9% ouais, acheté à l'extérieur. Compte tenu du temps qui passe, je propose de prendre une dernière question, et puis ensuite nous devrons passer, ou deux questions, et puis nous passerons ensuite aux résolutions, au vote des résolutions.
Bon, alors moi j'ai 3 petites questions. La première, est-ce que l'activité Calcin ne pourrait pas être filialisée ? Compte tenu que ce n'est pas votre cœur de métier, que ça demande beaucoup de capitaux, comme vous avez montré, vous investissez, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de filialiser cette activité ? Deuxièmement, vous avez en Italie une enquête pour activité non concurrentielle. Quel est votre degré d'implication ou les risques que vous avez ? Troisième question, vous avez installé une installation avec de la biomasse. La biomasse, tout le monde recourt à de la biomasse et on n'en a pas et on n'en aura pas. Parce que la biomasse, elle est en train de décroître de façon dramatique, notamment dans tout ce qui est forestier. Et ce qui est agricole, c'est pas mieux. Avec la baisse de l'eau et tout ça, ça va baisser. Donc, je pense pas que la biomasse soit un truc d'avenir. Après, j'avais une question plus conséquente pour le RSE. Donc, vous parlez beaucoup d'énergie verte. Moi, je sais pas ce que c'est de l'énergie verte. C'est des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. C'est intermittent, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'intermittence ? Tous ces trucs-là, moi, ça ne m'intéresse pas quand ça produit. Ça m'intéresse quand ça ne produit pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, par exemple, vous avez en Allemagne, vous parlez d'électricité. Ben, en Allemagne, moitié d'électricité, c'est du charbon ou du gaz. C'est pas très vert comme truc, hein. Donc, on montre l'électricité comme un truc vert. En fait, ça y est pas du tout. Donc, il faut quand même... Après, sur le RSE, donc, vous avez dit plusieurs fois que les entreprises vous demandaient d'abaisser vos coûts carbone. Donc, en ce moment, beaucoup de sociétés ont raboté le RSE 1-2. Maintenant, on tape dans le 3. Le 3 des sociétés, vos clients, ça devient vos 1 et 2. Et donc, ces sociétés-là vont vous obliger à investir... a augmenté beaucoup, est-ce que vous pourrez les répercuter aux clients ? Donc parce que les scopes 1, 2, 3, ça c'est un jeu de bonneto entre les sociétés. Hein. Donc, et je vous dis, comme le scope 3, on va taper dedans, tout le monde va se refiler le Misty Gris. Après, ah oui, je ne suis pas très convaincu de votre explication pour le cours de bourse. Hier, ça montait de 5%. Quand on voit le massacre qu'ont pris les entreprises avec des fois une baisse de 1% ou 2%, vous annoncez 20% et que votre cours de bourse s'est très bien tenu, moi, votre explication, elle me paraît un peu juste. Voilà, merci pour toutes mes questions.
Bien. Calcin et cœur de métier. Ça fait partie, encore une fois, le calcin est une ressource stratégique et nous avons décidé, chaque fois que c'était possible et que ça faisait sens, d'intégrer ça dans l'entreprise, avec la volonté de ne pas être intégré à 100%. Donc l'équilibre 50-50, 50% d'achat externe, 50% d'achat sous contrôle avec des entités en propre ou à travers des JV, ça nous paraît être le bon équilibre. Parce que ça nous permet de mettre de l'efficience dans la collecte et l'extraction. Et ça nous permet de maîtriser la qualité et d'être plus pertinent vis-à-vis des achats que nous faisons. Donc nous restons sur cette logique, ça me paraît être la bonne. Sur votre question sur l'Italie et le sujet que vous avez évoqué, comme nous l'avons déclaré, nous sommes très sereins par rapport à l'investigation qui est en cours. Nous collaborons, bien sûr, avec les autorités locales chaque fois que c'est nécessaire. Mais nous sommes extrêmement sereins. Je vous rappelle que nous avons des dispositifs et des processus pour vérifier nous-mêmes, à travers le contrôle interne, que nos principes et procédures sont bien appliqués. Donc nous sommes extrêmement sereins par rapport à ça. Sur le sujet de la biomasse, je ne vais pas commenter. Je pense qu'on est plus sur un sujet, c'est votre opinion. Je pense qu'il y a plein d'opinions d'experts. Je pense que les experts peuvent avoir des opinions extrêmement divergentes. Ce qui est certain, dans ce que vous dites, je ne crois pas qu'il y ait de solution unique. C'est-à-dire que dire que la biomasse de telle et telle origine serait la solution unique, je suis d'accord avec vous. À mon avis, c'est une ineptie. Par contre, localement, en fonction de notre implantation, s'il existe un écosystème sur place qui permet de récupérer de l'énergie via la biomasse, je pense que ça fait sens. Je pense que de toute façon, donc des débats d'experts, on pourrait en avoir. Je pense qu'il est illusoire de s'enfermer sur une solution unique. Et là, on devra faire preuve d'agilité, de créativité, d'inventivité. Après, vous me lancez sur le sujet de l'électricité verte. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, on parle d'électricité bas carbone. Bas carbone, c'est du renouvelable et du nucléaire, pour faire simple. Ensuite... vous ne pouvez pas nous rendre responsables de la politique énergétique des pays. Nous, on essaye d'œuvrer, on essaye de faire face à l'ensemble des réglementations et des contraintes qui sont mises en œuvre. Et notre devoir pour protéger l'entreprise, c'est d'y répondre. Et en plus, personnellement, je suis convaincu que tout ce que nous faisons, c'est bien pour la planète. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, il faut qu'on le fasse. Et en plus, je suis fier de pouvoir regarder mes filles en leur disant qu'on va contribuer à leur laisser une planète plus propre. Donc je suis assez fier d'avancer. Après, bah, évidemment, ça ne va pas aller à la même vitesse selon les pays. Mais on est engagé pour avoir de l'électricité bas carbone. Et c'est ce que nous allons faire. Scope 1, scope 2, scope 3, le jeu du bonneteau, je ne suis pas sûr de bien vous comprendre, je suis désolé. On est tous le scope 3 de quelqu'un, grosso modo, dans une chaîne, donc c'est extrêmement bien défini. Et si chacun fait son travail sur son propre périmètre de scope 1 et de scope 2, le scope 3 va se réduire naturellement. Moi, dans mon scope 3, j'ai du transport. Je n'ai pas la prétention de révolutionner les émissions de CO2 du transport. Par contre, le transport lui-même va avoir des contraintes pour réduire ses émissions de CO2. Et moi, je vais en bénéficier dans mon scope 3. À un moment donné, j'aurai peut-être à choisir entre un transporteur qui a un bon niveau et qui va décider de passer, je ne sais pas, sa flotte à l'hydrogène par rapport à un autre transporteur qui va continuer à rouler au mazout. Vous voyez, je veux dire. Mais globalement, on est tous... Donc tout ça, on peut le voir de manière extrêmement négative. Je pense qu'il faut le regarder de façon extrêmement positive parce que le sujet quand même du climat est sérieux. Bien sûr que ça a un coût. Bien sûr que ça a un coût. Et il faudra accepter d'en payer le coût. Mais est-ce qu'on a le choix? Je ne crois pas.
Sur le cours de bourse, le management a tenté de vous faire une explication qui est son explication. Chacun peut avoir une opinion sur le cours de bourse. Si le management pouvait prévoir les évolutions de la bourse, je pense qu'il ne serait pas dans ce métier-là. Il serait trader. Donc, on ne commentera pas plus ce point-là. Chacun a le droit d'avoir une opinion sur la bourse. Mais ce n'est pas le rôle du management de spéculer sur la bourse. On a répondu à toutes les questions.
Je crois qu'on a répondu.
Une dernière question, puis après nous allons passer au vote.
Dernière question, parce que c'est... Je suis Michel Martin, actionnaire individuel. Simplement, je constate sur votre schéma, la page 2 de la brochure de convocation, vous n'avez aucune présence dans les pays scandinaves. Ce sont les pays à fort pouvoir d'achat et qui consomment quand même beaucoup de vodka. Donc, je voudrais savoir. Et puis, pour terminer, dernière question. Vous aviez une présence en 2023 en Russie. Est-ce que c'est toujours d'actualité actuellement? Et est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur votre présence en Union soviétique?
Alors,
en Russie.
Non, nous ne sommes pas présents dans les pays scandinaves, effectivement. Donc ça pourrait faire partie de ce qu'on pourrait regarder. Mais encore une fois, l'assiette, comme je l'expliquais, elle est pleine. Et il n'y a pas eu de situations qui sont présentées. Non, why not? En Europe, ça on pourrait... Mais c'est pas, on n'a rien aujourd'hui. Et c'est factuel, nous ne sommes pas présents. Sur la Russie, oui, nous sommes toujours présents en Russie. Nous avons 2 usines, 5 fours en Russie. Bien sûr, pour nous, l'important, c'est de respecter les sanctions qui ont été émises par l'Europe vis-à-vis de la Russie. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, de la Russie, la Russie vers l'Europe. Nous sommes sur un business qui est local, avec des clients locaux, un management qui est local, et nous respectons l'ensemble des sanctions. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça fonctionne. Nous n'avons aucun effet négatif sur le reste de nos activités. Donc notre décision aujourd'hui, c'est de continuer à être pragmatique et avancer et à faire le business en Russie avec les équipes locales, avec un incontournable qui est de respecter l'ensemble des sanctions qui sont mises en place, parce que nous sommes une entreprise qui compliant, qui respecte l'ensemble des lois qui lui sont assignées.
Très bien, merci Patrice. Écoutez, je vous propose donc de passer maintenant à la séance des votes des résolutions qui vous ont été proposées. Wendy Koulfoulon va vous lire l'intitulé de chaque résolution sur laquelle vous pourrez ensuite voter.
Alors, première résolution, approbation des comptes sociaux de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Là, on est dans la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Troisième résolution, affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende à 2,15 € par action. Quatrième résolution. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l'absence de conventions nouvelles. Cinquième résolution. Renouvellement du mandat de Madame Marie-Josée Doncion en qualité d'administrateur. Sixième résolution. Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Vareille en qualité d'administrateur. Septième résolution. Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la vérification des informations en matière de durabilité. Huitième résolution. Nomination de BMA en qualité de commissaire aux comptes en charge de la vérification des informations en matière de durabilité. Neuvième résolution. Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration. Dixième résolution. Approbation de la politique de rémunération du directeur général. Onzième résolution. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs. Douzième résolution. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Michel Giannouzi, président du Conseil d'administration. Treizième résolution. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Patrice Lucas, directeur général de la société. Quatrième résolution. Approbation des informations requises au titre de l'article L22-10-91 du Code du commerce et afférentes à la rémunération des mandataires sociaux. Quinzième résolution. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs. Seizième résolution. Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la société par annulation des actions détenues en propre. Dix-septième résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise. Dix-huitième résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et ou donnant droit à attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. Dix-neuvième résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec délai de priorité obligatoire dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Vingtième résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec délai de priorité facultatif dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L411-2 du Code monétaire et financier. 21e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre dans le cadre d'offres publiques visées au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. 22e résolution. Autorisation au conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10% du capital par an. 23e résolution. Autorisation au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. 24e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre en rémunération d'apport en nature. 25e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. 26e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminés. 27e résolution, autorisation du conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la société et des sociétés lui étant liées. 28e résolution, pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Merci Wendy. Très bien. Au vu des résultats, des votes qui ont déjà été exprimés de manière électronique en avance de phase par rapport à cette assemblée, je peux déjà vous dire que toutes les résolutions soumises à votre vote ont été adoptées. Les résultats détaillés des votes seront publiés sur le site internet de Veralia, tout comme la présentation de la présente assemblée sous la rubrique Information réglementée, Assemblée générale des actionnaires. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation à cette Assemblée générale. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.
Juste une petite remarque, on a eu un décapsuleur en entrant. Je ne sais pas si on aura une belle bouteille en verre pour avoir un souvenir de la réalité. We'll be right back.
We'll be right back.